Ben voilà, bon matin. Ce matin, nous continuons notre série dans l'Évangile de Jean, mais vous avez remarqué que les petits disques sont toujours là pour se rappeler qu'on garde le rythme, on veut conserver le rythme de l'Église, revenir ensemble, la communion, la louange, la parole, la prière. Donc, c'est un aide-mémoire pour nous, là. On continue les rythmes de l'espoir et on plonge dans Jean et on va faire un exercice spécial ce matin. Ça ne sera pas un enseignement ou un sermon standard en trois points, comme des fois on est habitué, mais ça va ressembler beaucoup à une réflexion. On est rendu au chapitre 18 de l'Évangile de Jean, et c'est vraiment une charnière, pour l'humanité. C'est le moment où Jésus va être livré pour être condamné puis crucifié. Même Jésus lui-même, dans Luc 22, dit « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez jamais mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » C'est un moment intense où Jésus, devant la perspective de ce qui s'en venait, dit, par exemple, dans Matthieu, dans le jardin, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Dans Luc, au chapitre 22, il était en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est un moment d'une grande intensité où tout semble s'effondrer. Littéralement, tout semble s'effondrer. C'est des instants dramatiques pour Jésus, pour l'humanité. Même sur la croix, Jésus s'écrie d'une voix forte, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Au travers le récit que Julie va nous lire tout à l'heure, on peut voir des tableaux. C'est une histoire incroyable. Incroyable tout ce qui se passe dans cette histoire-là. Et on peut voir cinq types, j'ai appelé ça des tableaux, mais c'est comme cinq groupes, cinq personnes, cinq attitudes. On va plonger là-dedans tout à l'heure, ou des réactions devant l'adversité. Quand les événements s'effondrent, comment on réagit? Comment tu réagis, toi? Quand tout s'effondre en arrière de toi là, ou en dessous de toi, souvent on a tendance à se redire, à prendre le contrôle au lieu de fondre entre les mains de Jésus et on oublie l'Évangile. Mais pourtant, dans l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, l'Évangile est là. L'Évangile est toujours là. Constamment. Constamment. Donc, ce matin, c'est ce qu'on va voir à travers Judas, la foule, les disciples, Pierre, Caïphe, les gens religieux. Cinq tableaux où on va voir cette vérité. Si on pouvait résumer l'exposé ce matin, on pourrait le faire comme ça. C'est quand tout s'effondre que l'Évangile expose toute sa puissance. Vous êtes prêts? Le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Prions. Seigneur, combien on veut dire merci. Merci d'être là, même quand on n'en prend pas conscience. Merci Jésus pour ton esprit qui nous éclaire. Et ce matin, on ouvre ta parole et on te demande de nous parler. Parle, tes serviteurs écoutent. On veut, Seigneur, que tu nous imprègnes et que tu nous imbibes de ta parole, de cette liberté, de cette vérité. Éblouis-nous par l'Évangile ce matin. Prends ma bouche. Seigneur, que ce soit ta gloire qui resplendisse ce matin et qu'on sorte d'ici meilleur qu'on l'était quand on y est entré. Meilleur dans le sens de l'Évangile, dans le sens de ta gloire, dans ton sens à toi, Jésus. Et c'est en ton beau nom que nous te prions ce matin. Amen. Julie.
Bon matin. Donc, la lecture de ce matin est dans Jean, le chapitre 18, les versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jean 18, 1 à 14. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Mais qui cherchez-vous ? » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple.
Merci, Julie. Cinq tableaux. On commence avec Judas. Rien de moins. Judas. On va y aller par exposition, évidemment. Donc, on va exposer le texte. On va y aller graduellement. On commence avec le verset 1. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus allait avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron et se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Quel personnage Judas, hein? T'sais, on n'a pas le goût de se faire appeler Judas. C'est déjà une insulte quand tu dis que tu es juste un Judas. On n'appellerait pas nos enfants ni Adolphe ni Judas. T'sais, c'est comme... On évite ce genre d'affaires-là. Et pourtant, Jésus l'a choisi. Jésus savait déjà exactement là, l'histoire. Là. Il n'y avait pas de surprise. C'est lui le grand scénariste dessous de toute cette histoire-là. Il l'a choisi, il l'a emmené parmi ses disciples. Et on voit à travers le récit, Jean nous expose des détails de la vie de Judas. Entre autres, dans Jean 12, on voit que Judas était le gars qui s'occupait des sous. C'était le ministre des Finances, puis il tenait la bourse. Mais il pigeait dedans. On ne sait pas ce qu'il faisait avec cet argent-là, mais il se servait à même l'argent que les disciples collectaient à droite et à gauche. T'sais. Donc, c'était un voleur. Et là, je ne suis pas en train de l'accuser gratuitement. C'est exactement ce que la Bible dit. C'était un voleur. Et on voit dans Matthieu 26, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, à Béthanie, après la résurrection de Lazare, il y a une Marie qui vient mettre un parfum super cher sur les pieds de Jésus. Et là, bon, les disciples sont outrés et Judas dit franchement, on aurait pu vendre ce parfum-là puis donner l'argent aux pauvres. Oui, c'est cela. C'est intéressant de voir que Jésus leur prend. Il dit, non, 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 les pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous n'aurez pas toujours avec moi, avec vous. Et cette femme a fait ça pour ma sépulture. Et tout de suite après, dans Matthieu 26, on dit, alors Jésus, Judas allait voir les sacrificateurs. Et la première chose qu'il leur demande, c'est, que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Je pense que ce gars-là avait un problème avec l'argent. Qu'est-ce qui s'effondre dans la vie de Judas? Je dirais, on pourrait dire ses ambitions, son gain personnel. On ne connaît pas trop de détails sur son cœur, mais ce qu'on sait de lui, c'est qu'il aimait l'argent. Il y avait un problème avec l'argent, c'était probablement une idole dans sa vie, et qu'à un moment donné, il a réalisé qu'il n'en ferait pas assez, et il est allé voir les sacrificateurs. « Qu'est-ce que vous voulez me donner pour que je vous livre le gars? » Ils ont donné 30 pièces d'argent, qui à l'époque était à peu près un mois de salaire pour un soldat. Fait que je ne sais pas trop là, aujourd'hui ce que ça pourrait vouloir dire, peut-être 2 000 $, je ne sais pas. Mais bon, c'est ses ambitions. Et comment il réagit quand il voit que ses ambitions s'effondrent? Bien, c'est ça l'idée. T'sais, quand tout s'effondre, comment l'Évangile peut bien resplendir là-dedans? Bien là, imagine une conspiration pour livrer Jésus aux autorités. Et il dit, celui que je vais embrasser, ça va être lui, vous allez pouvoir vous saisir de lui. Je sais où il va souvent, le petit jardin, là, t'sais, le Gethsémané, on sait c'est quoi. Bon, parfait! Et franchement, pour nous, là, c'est facile d'être outré ou indigné là-dedans devant l'attitude de Judas, mais ce que je trouve vraiment fort, puis quand on parle de l'Évangile, c'est que Jésus l'a choisi. Jésus savait exactement ce qui était pour se passer. Là. Il n'y a pas de surprise. Il n'est pas en train de dire, « Oh non, on a perdu le contrôle de Judas. Quand, dans la chambre haute, il lui donne le pain, c'est intentionnel. J'aime tellement voir l'intention de Jésus, mais ce qui m'a profondément troublé et ce qui est vraiment, là, je dirais, le rayonnement de l'Évangile à travers l'effondrement de Judas, c'est deux petits mots. Deux petits mots où il faut aller dans Matthieu pour les voir, comment Jésus, lui, réagit et expose l'Évangile. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Longtemps, j'ai pensé que c'est sarcastique. « Hey, mon ami! Hey, mon ami! » Non. Non, non. Il n'y a pas de fausse vérité là-dedans. Jésus était honnête et sincère. Et on voit toute la puissance de l'Évangile là-dedans. Je sais qui est-ce que tu es. Hein? Il l'appelle même le fils de la perdition. On sait exactement que Jésus, comme je le dis, je le redis encore, était en contrôle de la situation. Et il appelle Judas mon ami. Tu sais, un ami. Comme il a appelé les disciples, vous êtes mes amis. On l'a vu, hein, dans Jean. Un ami, c'est quelqu'un qu'on choisit. Un ami, c'est quelqu'un qu'on choisit pour la vie. C'est quelqu'un qu'on décide d'aimer. Je décide de t'aimer d'une manière particulière, peu importe ce que tu feras. Et c'est ça, l'Évangile. C'est cet amour inconditionnel que Jésus a, même pour Judas, qui vient le livrer. Même si ça faisait partie de son plan, il prend la peine d'user deux petits mots. « Mon ami ». Je trouve ça tellement réconfortant. Où des fois, nous, on a un peu une attitude, des fois, rébarbative, où on va être rebelle. Mais Jésus est constamment en train de nous dire, « mon ami, est-ce que tu sais que je t'ai choisi? Je t'ai choisi, mon ami. » Wow! Ça commence comme ça. On continue. On parle de la foule. Deuxième tableau, la foule. On veut voir la puissance de l'Évangile quand tout s'effondre à travers la foule. Jean 18, verset 3. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Bon, Luc 22 dit, Judas avec une foule. Il y avait vraiment une foule, on ne sait pas combien il était. Ce qui est intéressant avec une foule, c'est que c'est anonyme. Hein? Tu sais, quand il y a une manifestation, on ne commence pas à les nommer un par un, là, c'est la foule. Il y a une grande foule. On sait aussi qu'une foule a souvent un âge mental un peu comme un enfant. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ceux qui ont hurlé une semaine avant, « Hosanna, Hosanna, Hosanna » à Jésus quand il est arrivé à Jérusalem. Bien, le lendemain de ces événements-là, vous savez ce qu'ils vont crier à Jésus, « Crucifie-le ». La même gang, là, c'est quand même fou. Là. C'est que les gens sont déçus. Hey, le gars qui a ressuscité Lazare il y a quelques jours, juste à côté, il était convaincu que c'était lui le Messie, le libérateur. Probablement que plusieurs se disaient, enfin, quelqu'un va kicker les Romains en dehors de Jérusalem. On va pouvoir retrouver notre bonne, belle vie qu'on avait avant. Ça va être enfin, le paradis sur terre. Et Jésus n'est pas le type de Messie qu'eux s'attendent. Ce n'est pas ce type de roi victorieux dans lequel ils ont toute leur espérance. Et la réaction est assez simple. Le vent tourne, il change d'allégeance. J'ai vu un documentaire sur Netflix, assez intéressant, sur la polarisation des discours. Vous savez, maintenant, on a beaucoup d'informations avec les réseaux sociaux et tout ça. Et la façon dont les réseaux sociaux travaillent, c'est qu'ils veulent te garder le plus longtemps possible dans les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils font leur argent avec les publicités et tout ça. Fait que donc, ils s'arrangent pour ce que tu vois, c'est des choses que tu as l'impression que tu aimes, que tu approuves et tout. Fait que là, ce qu'on voit, c'est que ce que ça fait dans le cœur des gens, c'est que ça les polarise. Ça fait qu'à un moment donné, les gens sont totalement convaincus qu'ils ont raison et ça crée des camps. On le voit là, présentement dans plusieurs domaines. Donc, c'est la population est facile à manipuler parce que le monde, en général, cherche la satisfaction plus que le bonheur. Il y a une grosse différence. Satisfaction, c'est quelque chose d'immédiat qui va satisfaire mes désirs. Je veux ça, qu'on consomme, on veut ça, mais le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est ce sentiment de plénitude, de paix et de joie profonde que seulement Dieu peut donner. C'est sûr que quand tu cherches une satisfaction instantanée, puis tu es influencé par le courant d'un monde qui est à la merci, ce que la Bible appelle le cosmos, dans le sens qu'il est à la merci d'un prince de ce monde, ben on arrive avec ce qu'on voit aujourd'hui, la foule qui, le lendemain, vont dire « crucifie-le », qui suivent Judas pour aller chercher Jésus. Pour nous, on appelle ça souvent la pression des pères, la crainte des hommes. L'Église a toujours été le reflet de la société d'une certaine façon, parce qu'on vient du monde, on l'a vu, je pense, la semaine passée. Dieu ne veut pas faire de nous des monastères, des gens là, isolés puis cloîtrés. Là. Il veut qu'on soit dans le monde, il ne veut pas nous retirer du monde, mais il veut nous préserver du malin, de l'influence du monde. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une époque où je crois que l'Église a un plus grand combat aujourd'hui qu'elle l'avait il y a plusieurs années. Principalement à cause de l'information. Avec nos téléphones, avec l'Internet, les réseaux sociaux, on a tellement d'informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'à un moment donné, cette abondance-là, ce harcèlement-là d'informations fait qu'on est constamment assailli, puis on a un grand défi de garder notre conscience pure à travers notre société. Mais pour Jésus, là on parle de l'Évangile, Jésus avait une seule idée, glorifier Dieu. Il ne se laissait pas influencer, il ne cherchait pas la reconnaissance du peuple. Il y a un passage intéressant dans Jean au chapitre 2, verset 23, où je vais vous lire ça, on l'a là. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Bien, c'est le temps, là, on est rendu une vedette. Non, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et trompons-nous pas, ce n'est pas du mépris. Quand Jésus vit la foule en traversant le lac, il fut ému de compassion devant la foule. Et pourtant, cette foule-là allait l'abandonner quelques jours plus tard. Il était déjà au courant de ça, mais il était ému de compassion. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'Évangile, c'est cette réalité-là de vouloir constamment la gloire de Dieu dans cet amour de Jésus. Jésus fait continuellement la volonté de son Père sans se laisser influencer par qui que ce soit. Puis même ultimement devant la foule qui lui crache dessus, pendant que Jésus est cloué sur une croix où la seule chose qui lui reste pour se défendre, c'est ses paroles, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. On cherche la gloire de Dieu plutôt que la reconnaissance et ultimement, le pardon. Parlons des disciples. Tableau numéro 3, les disciples. On est au verset 8. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Bon, qu'est-ce qui s'effondre du côté des disciples? Parce que quand tout s'effondre, que l'Évangile est à son top, là, ben, depuis 3 ans, les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils croient vraiment être avec le libérateur d'Israël. Et il y a un récit que Luc nous donne au chapitre 24 sur le chemin d'Emmaüs qui nous donne beaucoup d'informations sur l'espérance que les disciples avaient. On est après la mort de Jésus, après la résurrection, mais eux ne savent pas qu'il est ressuscité. En tout cas, ils ne croient pas. Puis on est au verset 21 de Luc 24. Où là, les disciples disent, ben, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ces gars-là ont vu les miracles, la sagesse, la transfiguration. Pas de doute, Jésus est un prophète, mais là, maintenant, il n'y a plus rien de certain. Leur réaction dans le jardin, quand quand Judas arrive avec la foule, avec des bâtons puis tout ça, tu sais, ils s'enfuient. Ils ont peur, ils sont confus. C'est juste une réaction normale, mais une réaction qui venait de Jésus lui-même. Ça aussi, c'est intéressant. On revient à Emmaüs. C'est intéressant aussi de voir comment eux interprètent. Ils disent, bon, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. C'est fou comment des fois nos certitudes sont fragiles quand les choses s'effondrent. Même les évidences, le tombeau est vide là, quand même, deviennent un peu comme floues. On interprète les choses en fonction de nos propres capacités plutôt que les interpréter en fonction des capacités de Dieu lui-même. On est un peu comme ça. Quand les choses ne vont pas comme on les a planifiées, je me souviens d'une fois, on avait un gars qui s'occupait du bâtiment, puis à un moment donné, il a manqué d'essence dans sa tondeuse et il était vraiment découragé. Il a fallu qu'elle cherche de l'essence pour finir la job. Et là, le vendredi, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il a pogné un flat. Il a eu une crevaison, mais vraiment une crevaison. Et là, il vient me voir, il était effondré. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Je ris, mais le gars était sérieux, il était sincère. Il avait cette impression-là d'avoir été abandonné, d'avoir pris les mauvaises décisions. Pourquoi je me suis embarqué dans tout ça? Comme les disciples cette journée-là, un peu comme Élie à un moment donné dans sa caverne, David dans certains psaumes, on le voit, les disciples ici, puis chacun de nous sûrement souvent, comment Jésus réagit là-dedans? Comment l'Évangile peut poindre là-dedans? Au-delà du fait que vraiment Jésus avait un contrôle, hein, c'est lui qui a permis que les disciples s'en allent, c'était pas comme une fuite où Jésus était surpris, là, gadon, il m'abandonne. Non, non. Pour que personne soit pris à part lui. On revient à Emmaüs pour comprendre un petit peu plus de l'Évangile. Pendant qu'il parlait, au chapitre 24, verset 15, pendant qu'il parlait et discutait, les gars là, d'Emmaüs, qui s'en allaient sur le chemin, c'était des disciples, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ça, c'est l'Évangile. Jésus fait toujours les premiers pas. Jésus nous accompagne constamment, même si nous, on ne le reconnaît pas. Jésus est là. Il nous protège, il nous dirige, il nous guide. Non, il ne surévalue pas nos capacités, mais il nous aime comme ses amis et ses frères. Même à Emmaüs, quand il apparaît à eux, il dit, vous êtes lents à croire. Un petit reproche, là. Franchement, les gars, qu'est-ce que ça vous prend de plus? Quand je pense à Thomas, si je ne mets pas ma main dans... C'est quelque chose, là. Je trouve ça fantastique et réconfortant de savoir que Jésus fait toujours les premiers pas. Jésus nous accompagne constamment et même dans nos faiblesses et les moments de découragement où on a l'impression que tout s'effondre et que, on est perdu, un peu comme les disciples. Mais Jésus est là. Il est là. Il est constamment là. Juste s'arrêter et en plus, avec l'Esprit Saint qui nous habite, on a ce potentiel-là, le super pouvoir qu'on voit dans les Actes, Actes 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Justement, parlons de Pierre. Quatrième tableau. Comment on peut voir la puissance de l'Évangile quand tout s'effondre pour Pierre? C'est le verset 10 de Jean 18. Simon-Pierre, qui avait une épée, je ne sais pas ce qu'il faisait avec une épée, mais il en avait une. J'imagine que ce n'était pas pour se tailler les ongles. Il l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Tout le monde connaît Pierre. Pierre, c'est le gars qui avait le taux des phrases explosives. juste une couple de journées avant, il avait fait une sortie marquée. À Dieu ne plaise, quand Jésus dit « Je m'en vais à Jérusalem, je vais me faire crucifier, mais je vais ressusciter », il dit « Non, 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 à Dieu ne plaise ». C'est une phrase intéressante, « À Dieu ne plaise ». C'est comme « M'en fous si Dieu n'est pas content ». Même si Dieu ne veut pas, moi, là, je te le dis que ça n'arrivera pas. Et Jésus fermement lui dit, « Arrière, Satan, c'est pas rien, là. Tes pensées sont les pensées des hommes. » Pierre, c'est le gars qui prend les choses en main. Tu sais, c'est un entrepreneur, il avait sa compagnie de pêche, là, ses bateaux puis tout ça. Il engageait ses amis puis ses parents. Mais c'est aussi un protecteur. En dessous de tout ça, c'est qu'il dit, moi, je vais te protéger, Jésus. Tu vas voir, je te prends sous mon aile, là, ça ne se passera pas comme tu l'as dit. Évidemment, quand il arrive dans le jardin, il s'aperçoit, oups, ce qu'il avait dit avant, c'est en train de se passer. Non, 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 non. À Dieu ne plaise. Peut-être que c'est ce qu'il s'est dit. Hein? Il est souvent le premier à parler, à s'exprimer. Puis quand tout s'effondre sur lui, ben il veut garder le contrôle. Il veut garder le contrôle de la situation. Sa réaction, ben on la voit là, devant le plan de Dieu tragique dont il est témoin, il faut que lui y ajoute sa méthode radicale. Sort son épée et pauvre Malchus qui était au mauvais endroit au mauvais moment, plusieurs commentateurs pensent qu'il ne visait pas l'oreille, il ne devait pas avoir assez de visou pour ça, il ne voulait pas en faire un Van Gogh avant le temps. Il voulait juste y couper la tête. Là. Fait qu'on voit l'ampleur de la colère que Pierre avait. Là. Moi, j'ai vu tellement de gens. Et moi, dans ma vie, combien de fois j'ai refusé le plan souverain de Dieu? C'est pas toujours en sortant l'épée. Là. On a toutes sortes d'épées. Hein? Des petites épées, des grosses épées. Des fois, nos yeux sont comme des épées. T'sais, si nos yeux étaient des épées, il y aurait bien des oreilles qui seraient coupées. Hein? C'est comme rien. Quand tout s'effondre, quand ma santé s'effondre, quand ma famille s'effondre, quand je vis des deuils, des enfants qui meurent, quand ma sécurité s'effondre, quand ma liberté s'effondre, comment je réagis? Comment je réagis? Est-ce que je sors l'épée pour... Non, hein, tu sais, les arguments, parce que notre langue peut être aussi une épée, hein, c'est bien connu, là. Puis là, on oublie les bases de glorifier Dieu, même dans l'effondrement. J'aime le T-shirt qui dit « Keep calm, God is in control ». Relax, relax. Ah, ça a l'air tellement facile. Moi, je passe ma vie à me battre avec ça, tu sais, de dire « Non, 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 non. Prends ça cool, Dieu est en contrôle. » Comme si Dieu, il y avait des ondes de Dieu qui pourraient ne pas être dans le contrôle de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tu sais, servir Dieu n'a jamais été une assurance de bien-être. On va juste mettre ça clair en partant. Jésus dit à Pierre, Jean 18, 11, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Oui, ça fait mal. Oui, ça va faire mal. Mais c'est ce qui doit être fait pour glorifier. Hébreux 5, 7. C'est lui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus désirait faire la volonté de Dieu malgré la souffrance. Tu sais, cette fameuse coupe-là, là, bien, c'est un choix. C'est un choix. Et ce qui qualifie l'Évangile ici, on pourrait dire, c'est la douceur. La douceur. La douceur, c'est en anglais, on qualifie ça, ou on pourrait le traduire, c'est « power under control », la puissance sous contrôle. La douceur, c'est comme la différence entre une bombe nucléaire puis un réacteur nucléaire. La bombe nucléaire, ça te détruit une ville, c'est pas long. Le réacteur nucléaire peut l'alimenter et la nourrir et aussi longtemps que ça va durer. C'est la douceur, c'est cette puissance-là que Dieu a, cette puissance que Jésus a et qu'on voit là. Il aurait pu, par un claquement de doigts, emmener des légions d'anges, puis on règle le problème. Il aurait pu. Il aurait pu. Et je crois vraiment que les anges attendaient le go. Ils ne l'ont jamais eu. Pourquoi? Parce que c'était le chemin à passer. L'Évangile, c'est aussi une souffrance. C'est une coupe. Être doux, c'est pas être mou. Souvent, dans le monde, dans la pensée du monde, quelqu'un qui est doux, il est mou. Tu sais, rien faire, c'est synonyme de passivité. Mais si rien faire est synonyme de « je laisse Dieu prendre le contrôle », ça prend énormément, énormément de force pour faire ça. C'est pas pour rien que la douceur est un fruit de l'esprit. Humainement, c'est impossible. C'est juste impossible. Et ça, bien, c'est une autre facette de l'Évangile que Pierre a appris à la dure. Hein, on le voit après les récits de Pierre à travers le Nouveau Testament. Et on a un Pierre bonifié, un Pierre 4, verset 12, quand il écrit dans sa lettre, il dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » On a un Pierre qui a appris des choses. Il a découvert l'Évangile. On prend ce relax. On finit avec Caïphe. Caïphe. Verset 13. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, qui était sacrificateur aussi, car il était le beau-père de Caïphe, qui était sacrificateur aussi. J'ai marqué en note la mafia de Jérusalem. Histoire de famille, là, tu sais. C'est quand même. Fait que, tu sais, quand tu es accusé par un puis tu passes à travers les deux, tu dis, ben, je pense que mon sort est pas mal décidé. On pourrait avoir l'impression que c'est eux qui tiennent les ficelles, tu sais. Les deux souverains sacrificateurs sont contre toi. Ces gars-là ont l'impression vraiment que tout s'effondre pour eux autres. Et ils ont peur. On le voit au chapitre 11, verset 48. Qu'est-ce qui s'effondre pour eux? Ben, les pharisiens et toute la gang, ils se donnent un petit meeting entre eux autres. Ils disent, bon, si nous le laissons faire, Jésus, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous ne comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Tout était une question de pouvoir, d'équilibre, un équilibre des forces, de la politique. C'est de la politique. Les pharisiens, les religieux de l'époque, étaient convaincus de faire la bonne chose pour Dieu. Ils étaient vraiment convaincus. Il était sincère, mais il était sincèrement dans l'erreur. Et sa réaction, c'est ce procès-là. On s'embourbe dans un procès arrangé, on amène des faux témoins, on condamne un innocent pour l'amener justement là où on veut, c'est-à-dire sur la croix. Avec cette impression-là qu'on contrôle toutes les petits, toutes les petites ficelles de l'affaire. C'est fou la quantité de loi, on pourrait dire, de l'Ancien Testament qui a été violée à travers ce procès-là. C'est juste comme hallucinant. Devant la crainte des hommes, la crainte de Dieu a pris complètement la voie de service. On est devenu religieux, manigancieux, politique. Quand on pense que c'est notre responsabilité de tenir les ficelles, c'est facile à un moment donné de se prendre un peu pour Dieu à travers le processus. La religion, c'est quelque chose qui nous guette tous, pour nous. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit que c'est souvent un cycle d'embourbement religieux, puis de réveil et d'embourbement. On s'engourdit, on se réveille, on s'engourdit, on se réveille. C'est qu'à un moment donné, la sécurité qu'apporte l'organisation, les formes, finit par un moment donné nous faire perdre de vue l'Évangile. Et ici, c'est intéressant de voir à quel point Jésus a le contrôle sur tout les étapes du processus. Il a une stature incroyable. Imaginez, il est même devant Pilate, le dos complètement labouré par les fouets, là. Et il lui dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu n'avais pas été donné par mon Père qui est dans le ciel. » C'est l'Évangile. L'Évangile est là. Même si Jésus était très conscient que les chefs de son peuple étaient corrompus, étaient perdus dans la religion, Jésus, c'est intéressant, jusqu'au bout, respecte les institutions, respecte les religieux de son époque, même si eux sont en train complètement de déraper, parce que ultimement, qui tient les ficelles? Est-ce que c'est eux ou c'est Dieu? C'est Dieu. Hey, il tient tellement les ficelles que Dieu prophétise à travers Caïphe en disant il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple que la nation entière ne périsse pas. C'est du contrôle. Le gars a prophétisé malgré lui. Parce que Dieu était en contrôle complet des événements. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ces cinq récits-là? Il y a tellement de choses. On voit l'Évangile complètement à travers, que ce soit Judas, la foule, les disciples, Pierre, Caïphe. Peut-être que la première chose qu'on voit, c'est que peu importe le groupe ou le tableau qu'on regarde, tout le monde avait cette perspective où on prenait la source de nos motivations à travers nos désirs. Personne ne voulait totalement ou vraiment la gloire de Dieu ou cherchait vraiment l'Évangile. Et c'est peut-être là pour nous la leçon à tirer. On est tous pécheurs, vous êtes au courant. On a tous cette tendance-là, on a tous ce travers-là où on peut déraper, et ça arrive des fois, à l'occasion, soit des petites épées, des grosses épées, peu importe. Des fois, on va juste comme fermer les yeux sur certaines choses. Mais ce qu'il faut retenir du récit de Jean 18, c'est premièrement que Dieu a toujours le contrôle. Dieu a constamment et il prend toujours l'initiative. On le voit à travers Judas. Il a choisi Judas, il a donné le pain. Judas a fait ce que Jésus voulait. La foule était dans la même direction. Les disciples ont été choisis par Jésus, ont été sauvés par Jésus. Il remet les baies de pierre dans son fourreau. Il guérit Malchus. Il se présente à Caïphe. Quand la foule vient le voir, il dit « C'est moi ». Quand il arrive devant Caïphe, il lui donne même des arguments pour le condamner. « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. » C'est un contrôle total. Jésus prend toujours l'initiative, même avec, quand on le voyait tantôt à Emmaüs. Jésus s'avance et se joint à eux. Et ça, c'est réconfortant. C'est réconfortant. Il choisit la souffrance pour que nous, on n'ait pas à y faire face. Mais ultimement, c'est cette joie-là, quand on voit Jésus, ou à travers chacun des tableaux qu'on a regardés ce matin, exposer son amour, appeler Judas mon ami, aimer ses disciples, aimer Pierre, et même les politiciens, les a respectés profondément. Pour nous, ça nous dit juste de fondre dans ses bras, même quand tout s'effondre. Je ne sais pas ce matin où est-ce que tu es, et là j'invite les musiciens à venir me rejoindre. L'équipe de louanges. Je ne sais pas où tu es à matin. Ce que je sais, c'est que ce matin, si tu m'entends, c'est que tu es en train d'écouter. C'est une évidence. Chose est sûre, c'est que tu es exactement là où Dieu te veut aujourd'hui. Je ne sais pas, dans ta vie, s'il y a des choses qui s'effondrent, si tu as l'impression que tu as perdu complètement le contrôle des choses. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas étranger au plan de Dieu pour toi. Ce que je sais, c'est que Dieu t'aime. Dieu veut t'appeler mon ami. Dieu a les bras grands ouverts pour toi ce matin. Et tout ce qu'il te demande, c'est de fondre dans ses bras, même quand tout s'effondre. Prions. Seigneur, quel récit fantastique où on voit à quel point chaque étape, chaque lettre, chaque virgule sont sous ton contrôle. Il n'y a rien qui t'échappe. Mais à quel point aussi on voit un reflet de notre propre cœur à travers ces cinq tableaux. On n'est pas mieux, puis on n'est pas pire que tous ces gens-là. Ce qui fait de nous une différence, c'est toi. C'est toi, Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de nous exposer constamment ton évangile à chacune des pages de ta parole. Merci, Seigneur, que tes bras sont constamment et toujours ouverts. Jésus, ce matin, on te prie de nous serrer fort dans tes bras. On se plonge dans tes bras pour que ta gloire resplendisse. Et c'est en ton beau nom qu'on prie. Amen.